Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 12 février, difficile de garder les pieds sur terre. Ça dérape de la Bretagne aux Alpes. Entre le verglas et la neige, les conditions de circulation sont compliquées. Bonjour Valérie Quintin.
Bonjour, oui, alors c'est vrai que ça s'arrange pas. Pour autant, on peut noter un léger mieux. D'abord, la vigilance rouge sur les trois départements du centre du pays a été levée. C'est repassé en orange. On a quand même quelques pluies verglaçantes encore actuellement dans l'Indre ou encore dans la Vienne et dans les Deux-Sèvres. Et puis sinon, des pluies sur les régions de la moitié sud et des chutes de neige aussi. Et on peut s'attendre à d'abondantes chutes de neige jusqu'en plaine. Cet après-midi, dans le Massif central et en Rhône-Alpes, on attend 7 à 15 cm de neige. Pendant ce temps-là, la moitié nord profite d'éclaircies plutôt belles, mais avec des températures franchement glaciales. On grelotte toujours. Alors, Ajaccio va culminer à 15 degrés cet après-midi. Il fera 14 à Biarritz et Marseille, 10 à Bordeaux, mais moins 2 degrés à Mulhouse au meilleur de l'après-midi. Pour l'instant, il fait moins 8 encore. 1 degré à Paris aujourd'hui.
Trop de variants du Covid en Moselle. Situation inquiétante. Olivier Véran, le ministre de la Santé, sera sur place tout à l'heure. Faut-il reconfiner localement? Allonger les vacances scolaires. Nous serons en ligne avec le président du conseil départemental, Patrick Weiten. L'appli Tous Anti-Covid au secours des lieux publics. Information RTL. Un décret sera publié la semaine prochaine prévoyant d'alerter les cas contacts grâce à un QR code. On vous expliquera tout. Dans RTL Midi aussi, nous irons faire du ski dans la très chic station de Courchevel sans remontée mécanique. Mais vous verrez que ce n'est pas très écologique. Et puis le coup de cœur de nos correspondants nous emmènera à Lyon pour un menu de Saint-Valentin. Végétarien et généreux. La question du jour sur RTL.fr, faut-il reconfiner les départements où la situation sanitaire se dégrade? Donnez-nous votre avis au 32-10. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour, et Olivier Véran est en Moselle aujourd'hui. Vous pourrez réagir sur ce thème. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a proposé une protection rapprochée aux professeurs de philosophie de Trappes et ce sera l'occasion de revenir sur cette situation. Autre sujet politique, celui-là, pourquoi les jeunes ne regardent-ils plus les émissions politiques traditionnelles? Hier soir sur France 2, le débat Darmanin-Le Pen a été moins regardé par la tranche 25-49 ans que Jean-Luc Mélenchon sur C8 avec Cyril Hanouna. Ça, c'est un sujet intéressant, me semble-t-il, à traiter. Puis dimanche, c'est la Saint-Valentin. Je ne sais pas où vous serez. Je parle aux auditeurs. Mais en tout cas, racontez-nous ce que vous allez faire. Une Saint-Valentin qui sera verglacée et sous couvre-feu. Et sous la couette, peut-être.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
La minute.
Bison Futé appelle les automobilistes ayant prévu de partir aujourd'hui à attendre jusqu'à demain. C'est pas comme si les écoliers de la région parisienne, de Toulouse ou encore de Montpellier étaient en vacances ce soir. Le verglas sévit de la Bretagne au centre où il est parfois tombé jusqu'à 1 cm de glace. Et que vous partiez ou pas vers les sports d'hiver, vous avez déjà droit à la patinoire. Nicolas Bobby, ça glisse par exemple dans le Morbihan.
Oui, c'est l'état de glace. Plus d'une centaine d'interventions des pompiers dans les Côtes d'Armor où 600 camions sont bloqués. Toute la matinée des routes départementales étaient impraticables, transformées en véritable patinoire comme à Locminé dans le Morbihan. Pour rejoindre sans pneus neige son commerce de spiritueux Éclat de Vigne, c'était le parcours du combattant pour Michel Lemaireau.
Ça glissait énormément. Je n'ai jamais vu une épaisseur de glace comme ça. C'était impressionnant. Je me suis fait peur. Et en faisant très attention en roulant à 10 à l'heure, voilà. Je me disais à un moment, j'étais cinglé. T'aurais dû rester au coin du feu.
Dans cette commune, un camion s'est arrêté, puis a glissé et terminé sa course dans le mur de la gendarmerie. À Pontivy, où habite Philippe Lemestre, de nombreux piétons ont chuté.
Alors devant chez moi, c'est très verglaçant. J'ai pas pu sortir de chez moi ce matin pour aller au travail. Et dans ma rue, qui est une rue bord de l'eau, on ne peut pas marcher, c'est très dangereux.
Les TGV et les TER circulent avec quelques retards. Des agents SNCF étaient positionnés cette nuit dans des hôtels près des gares pour dégeler les aiguillages et les quais. Le soleil pointe enfin le bout de son nez, place au dégel dans les prochaines heures.
Oui, Nicolas Bobby, et justement les poids lourds sont de nouveau autorisés dans le Morbihan sur le réseau secondaire. Notez que 4000 personnes sont privées d'électricité en ce moment en Bretagne, en Indre-et-Loire par précaution. 450 camions sont à l'arrêt sur la voie de droite de l'autoroute A10 à hauteur de Sainte-Maure-de-Touraine dans le sens Paris-Bordeaux sur 18 km, nous signale notre correspondant Christian Panvert. Les variants du Covid sévissent tout particulièrement en Moselle. Plus de 300 300 cas répertoriés ces 4 derniers jours sans qu'il y ait pour autant de clusters. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a même évoqué hier une situation inquiétante. Il sera sur place en début d'après-midi. Quel est l'état des lieux, Dimitri Ramelot ?
Eh bien, les dernières données de l'Agence régionale de santé sont très inquiétantes. Le taux d'incidence, le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants y est de 290. Il était de 239 il y a 2 semaines. Un taux qui grimpe chaque jour avec certaines zones qui affichent 40% pour les variants. Autre curseur préoccupant, les plus de 65 ans, où là encore le taux d'incidence en Moselle est de 237, seul département de la région au-dessus des 200. Enfin, la Moselle enregistre en 24 heures un tiers des hospitalisations de toute la région, notamment en réanimation. Frédéric Picard est aide-soignant en réanimation à Metz.
On est saturé, on a 36 lits de réanimation polyvalente, les 36 sont pleins de Covid et de pathologies diverses. Le constat est inquiétant parce qu'on ne sait plus où mettre les patients, les médecins ne savent plus où mettre les patients. On a l'impression, le ressenti, que si ça continue dans ce sens-là, oui, on va revivre les plans qu'on a eus de catastrophe, voire de médecine de guerre sur le Covid.
Parmi les pistes pour tenter d'endiguer le phénomène, l'avancée de la date des vacances de février, pour l'instant prévue le 19 au soir, un possible couvre-feu à 14 ou 16 heures dès demain était aussi évoqué ce matin en attendant l'arrivée d'Olivier Véran à Metz.
Dimitri Ramelot et nous sommes avec le président du conseil départemental de Moselle. Bonjour Patrick Weiten.
Bonjour.
Vous êtes surpris par la rapidité de propagation des variants ?
Oui, sachant que ça n'a fait qu'une dizaine de jours que les analyses ont été mises en place pour identifier précisément les variants, et en particulier celui-là venu des pays du Sud-Afrique et du Brésil.
Mmh. Alors, est-ce que comme le maire de Metz, vous demandez un confinement local ?
Non, moi je ne suis pas favorable. Je pense qu'il faut qu'il y ait une gradation dans les mesures et les contraintes qui doivent être mises en place, tenant compte à la fois de la situation très particulière de la Moselle, qui est un territoire de plus d'un million d'habitants, adossé au Luxembourg et à l'Allemagne, avec près de 100 000 travailleurs frontaliers. On est sur un grand couloir de circulation, donc un gros brassage de population, oui, qui continuera à exister, quelle que soit la situation en termes de confinement local. Donc je préfère des mesures plus ciblé, en arrivant peut-être à ce niveau-là ensuite de confinement général, mais je pense que c'est une mesure, il faut quelques mesures intermédiaires encore et voir comment l'évolution peut permettre d'infléchir la courbe.
Oui, alors justement, quelle sorte de mesures intermédiaires, par exemple, avancer la date des vacances scolaires et fermer les établissements scolaires dès demain midi ?
C'était une solution qui était effectivement envisagée, nous donnant à ce moment-là 3 semaines de respiration et mettre à profit ces 3 semaines pour vacciner massivement dans une démarche de solidarité nationale. Je crois qu'il faut des contraintes, ce qui représente quand même une attitude assez négative face à la population qui est subie depuis près d'un an. Il faut rappeler les gestes barrières, là aussi il y a peut-être eu un certain laisser-aller. Il faut tester massivement, je crois que c'est aussi important, protéger. Mmh. Et puis la protection, c'est naturellement la vaccination. Et là, on est dans une démarche très positive, c'est-à-dire que donner une perspective positive et un espoir à nos concitoyens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Donc tout à l'heure, lorsque vous allez rencontrer Olivier Véran, vous allez lui demander plus de doses pour la Moselle ?
Ah, effectivement, je crois qu'il faut qu'il y ait la solidarité nationale qui fonctionne. Si on ne produit pas plus de doses, qu'on essaye au moins de cibler les territoires, là où effectivement il y a une augmentation de la contamination, voire des variants qui arrivent en nombre et qui peuvent avoir des conséquences sur l'avenir. On a 3 semaines là, donc vaccinons, mettons en place massivement des centres de vaccination, et là les départements et le service départemental d'incendie et de secours que je préside sont prêts à se mobiliser. Et durant ces 3 semaines là, cela permettra de porter les deux vaccins, alors qu'aujourd'hui on a des délais qui sont beaucoup beaucoup trop longs dans une situation pandémique qui met la Moselle dans une situation compliquée.
Est-ce qu'il faut aussi par exemple renforcer les contrôles aux frontières? Vous en parliez tout à l'heure, il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de travailleurs frontaliers avec le Luxembourg et l'Allemagne.
Alors, ces deux pays déjà testent énormément, je crois que, et vaccinent énormément, beaucoup plus que ce que nous le faisons nous. Mmh. Je pense au Luxembourg par exemple, où le Luxembourg vaccine les travailleurs frontaliers, par exemple. D'accord. Donc il y a vraiment un travail à faire et essayer d'arriver au niveau de nos voisins. Les tests sont mis en place, les moyens sont mobilisés. Maintenant, on ne connaît pas très bien quelles sont les origines des variants ou du variant, quelles sont les populations qui sont les plus concernées, quels sont les territoires qui sont les plus infectés. On sait que la métropole de Metz, naturellement, l'est du fait de son grand centre urbain, mais on ne sait pas ensuite quels sont les autres territoires de Moselle qui souffrent de cette même difficulté.
Et en attendant d'en savoir plus, on entend bien, Patrick Weiten, que ce que vous réclamez, vous, avant tout, c'est plus de doses. Merci beaucoup, merci d'avoir été l'invité de ce journal, président du conseil départemental de Moselle. À Dunkerque, où le virus circule aussi beaucoup, le maire réclame la fermeture des collèges et des lycées. Le préfet devrait donner une réponse dans la journée. Actuellement, 103 établissements scolaires sont fermés dans notre pays pour cause de Covid et 1599 classes. 2,5 millions de Français ont déjà été vaccinés avec les 3 vaccins actuellement sur le marché. Et certains soignants qui ont reçu le sérum d'AstraZeneca ont fait parfois des réactions assez intenses. C'est le cas de Kevin, 29 ans, en région parisienne.
Dans l'après-midi, j'ai commencé à ressentir comme si j'étais dans le gaz. Et vers la fin d'après-midi, j'ai commencé à avoir de la fièvre, modérée au début. Et en début de soirée, ça a été grosse fièvre, 38,5, 38,6, 38,7, toute la nuit jusqu'à 6 heures du mat. Et le lendemain, on est fatigué puisque forcément, on n'a pas dormi de la nuit. On était deux à l'avoir fait dans le service et nous deux, on a eu les mêmes symptômes. Malgré les 24 heures d'horreur, en fait, nous, on est assez contents de l'avoir fait parce qu'on sait que c'est vachement utile, quoi. Parce que même si, effectivement, pendant 24 heures, on va être un peu patraque, c'est rien à côté de ce que peuvent vivre d'autres. Donc si 24 heures d'horreur, ça nous évite 15 jours d'être cloués au lit avec le Covid, il faut y aller les yeux fermés, quoi.
Le témoignage de Kevin recueilli par Agathe Landais. Je me tourne vers vous, Sophie Orange, bonjour. Car il s'agit de rester calme. Ce jeune soignant est-il un cas isolé?
Alors, on va regarder les chiffres. Hein. Oui. Selon l'Agence du médicament qui recense tous les jours les effets indésirables liés au vaccin, 149 cas ont été rapportés officiellement entre le 6 et le 10 février sur les 10 000 personnes environ vaccinées par AstraZeneca. Mais il y en a sûrement davantage hein, qui n'ont pas saisi leurs effets indésirables sur le site dans les formulaires de l'ANSM. Ce qui frappe les experts tout de même, c'est l'intensité des effets secondaires. Et donc, à la clé, la désorganisation des services qui se retrouvent lorsque tout le monde est vacciné le même jour avec beaucoup d'absents dans les 48 heures. D'où cette nouvelle recommandation, échelonner les injections des soignants dans un même hôpital. Ces effets secondaires étaient attendus, ils ont déjà été repérés, observés lors des essais cliniques. La vaccination en elle-même avec AstraZeneca n'est donc pas remise en question, c'est juste une question d'organisation.
Bon, et pour les autres vaccins?
Alors, pour le vaccin Pfizer, qui représente l'écrasante majorité des 2,5 millions d'injections. 2140 effets indésirables ont été analysés, plus chez les femmes que chez les hommes, dont 73 cas d'hypertension artérielle, 140 cas de troubles du rythme cardiaque. C'est un signal qui doit être surveillé, écrit la ANSM. Et enfin, pour le vaccin Moderna, 40 cas signalés à la ANSM depuis le 22 janvier. Mais dans tous les cas, la vaccination continue comme prévu.
Sophie Orange, merci. Et ensuite, pour prévenir tout cluster, le gouvernement mise sur l'application Tous Anti-Covid. Un décret sera publié la semaine prochaine, c'est une information RTL. Au moment où les bars, restaurants et autres salles de sport rouvriront, eh bien, on présentera des QR codes à l'entrée. Expliquez-nous comment ça va fonctionner, Vincent Derosier.
Alors, avant de manger ou de soulever de la fonte, Christelle, il vous faudra scanner un QR code avec l'application Tous Anti-Covid, c'est-à-dire tout simplement prendre en photo avec votre téléphone cette sorte de code-barre en forme de petit carré. On le fera à l'entrée d'un restaurant ou d'une salle de sport, ce qui permettra d'enregistrer sa présence dans l'établissement. Ensuite, si une personne est positive, tous les clients sont prévenus, ils ne sont pas considérés comme cas contact, mais il leur sera demandé de se faire tester. En revanche, si 3 personnes sont malades en même temps ou plus, là le seuil d'alerte est franchi, tous les clients sont considérés comme cas contact et ils devront se faire tester, puis s'isoler. Cette règle s'appliquera aux établissements de grande taille. Difficile d'être plus précis pour l'instant. Le gouvernement doit encore trancher selon la taille ou la ventilation des lieux. Pour les tout petits restaurants, en revanche, la règle du tous cas contact pourrait s'appliquer dès qu'une seule personne est positive. Le gouvernement pourra ensuite élargir ce système au cinéma ou au musée. Et si une personne n'a pas de smartphone ou ne souhaite pas télécharger l'application, il sera possible de laisser ses coordonnées sur une bonne vieille feuille de papier.
Voilà, ça paraît du bon sens. Mais ça pose quand même quelques questions de droit. Bonjour Jean-Philippe Derosier.
Bonjour.
Vous êtes constitutionnaliste et professeur de droit public à l'Université de Lille. 3 questions pour comprendre. Est-ce compatible ce système avec le respect de la vie privée?
C'est assez difficile de répondre clairement à cette question, notamment du fait de la toute dernière remarque qu'a fait mon homonyme à l'instant, même si nous n'avons rien à voir d'un point de vue familial, à savoir que il y a un problème et un principe d'égalité. Déjà, tout le monde n'a pas forcément un téléphone portable, tout le monde n'a pas forcément un téléphone portable compatible, et il n'est pas obligatoire d'en avoir un. Et il n'est pas non plus obligatoire de télécharger l'application Tous Anti-Covid. Donc comment ça se passe si j'ai pas de téléphone? Ça veut dire que je peux pas aller au restaurant? Alors, il a été dit que dans ce cas-là, je peux déposer effectivement mes coordonnées sous format papier, ce qui était d'ailleurs déjà le cas avant que l'on ferme les restaurants. Il y avait déjà cette possibilité-là. Donc bon, sous cet angle-là, à la rigueur, ça devient possible. Mais si il y a, ce qu'il faut éviter, c'est une barrière et donc une atteinte au principe d'égalité qui ferait que ceux qui ont décidé de ne pas télécharger l'application parce qu'elle n'est pas obligatoire ou qui ont une fracture numérique ou qui simplement par leur choix personnel ne veulent pas avoir de téléphone portable ne puissent pas aller au restaurant. Là, il y aurait un problème d'égalité et donc là, effectivement, il y aurait une difficulté constitutionnelle.
Rapidement, est-ce qu'on aura le droit de refuser?
Oui, oui, parce que ce n'est pas obligatoire, on peut tout à fait refuser. La question, c'est la conséquence du refus. Est-ce que si je refuse, on peut m'interdire d'entrer dans le restaurant ou dans la salle de sport ou dans le cinéma? Et c'est là la difficulté. Je ne suis jamais obligé de faire quelque chose contre mon gré, sauf si c'est obligatoire. Mais qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas? Quelle est la conséquence? Parce que on est entre guillemets entre personnes privées. Il n'y aura pas un officier de police judiciaire devant le restaurant qui va vérifier et qui sera habilité à vérifier ce que je fais. Ce sera le patron du restaurant qui va me dire vous avez le droit de rentrer ou pas. Et la question, elle sera là. J'ai la liberté, normalement le droit de rentrer dans le restaurant. Si le fait d'avoir l'application devient une obligation pour rentrer dans le restaurant, à nouveau là on a un problème également de constitutionnalité sur la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir et le droit au respect de la vie privée.
Merci beaucoup pour cet éclairage, Jean-Philippe de Rosier. Merci. En attendant, toujours des fêtes clandestines. L'une d'entre elles a réuni une centaine de personnes en extérieur sur le campus de Lumini près de Marseille. Les policiers qui sont intervenus ont été caillassés. Ils ont répliqué avec des grenades lacrymogènes. Une personne a été interpellée. Dans un instant, des remontes-pentes inédits et pas très écologiques. On part à Courchevel.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Les deux tiers du pays en vacances scolaires d'hiver. Ah, la montagne, ses grands espaces et son air pur. Mais à Courchevel ou comme ailleurs, il n'y a pas de remontée mécanique. On a trouvé une solution pour se rendre en haut des pistes.
C'est juste un balai incessant de taxis aller-retour. Donc des taxis où tout le monde prend le même taxi toutes les 10 minutes. Pour le virus, il n'y a pas vraiment de mieux à mon avis, ni pour la planète. Mais bon, nous on s'en fout, on est venu en vacances pour 3 jours. Donc on en profite, c'est le pied vraiment.
Alors c'est pas très écologique tout ça. Mais voilà, ouais, on n'a pas le choix, on prend des véhicules. C'est absurde. Effectivement là c'est l'embouteillage, c'est dommage. Ouais. C'est dommage parce que c'est pas l'image qu'on veut donner en montagne. C'est dommage d'en arriver là, mais les gens sont contents. Donc on essaie de contenter les gens qui passent de bonnes vacances. On a le soleil, la belle neige, mais ça me plaît pas trop, non.
C'est le reportage le plus absurde du jour de notre correspondant Serge Puyot. Ça mérite une petite explication. Bonjour Jean-Yves Pachaud.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Courchevel. C'est pas très écolo quand même.
Ah, écoutez, disons que comme pour les vacances de Noël, nous avons essayé de satisfaire au mieux nos clients, ceux qui viennent nous visiter, bien sûr, ils sont pas très nombreux, mais il faut quand même essayer de les satisfaire. Et particulièrement, nous avons organisé cette petite piste de débutants, hein, qui n'est pas très longue.
Oui, alors il y a une seule piste, hein, qui est une piste bleue, qui fait 2 kilomètres, qui est ouverte dans votre domaine skiable, c'est ça?
Voilà, tout à fait.
Mais est-ce que ça vaut de créer des embouteillages? On vient à la montagne pour respirer de l'air pur quand même, non?
Non, mais tout à fait, nous en sommes très conscients. Alors, les embouteillages, c'est quand même un petit peu exagéré parce qu'on n'a pas la circulation que l'on a d'habitude. Mais disons que habituellement, nous avions des navettes et des bus justement qui circulaient sur le haut de la station que nous avons abandonnés. Nous avons abandonné ça parce qu'il y avait réellement dans ces navettes ou dans ces bus des risques de contamination. Et donc c'est vrai que chacun.
Mais là, qu'est-ce que vous allez faire là, Jean-Yves Pachaud? Parce que vous n'allez pas garder le système comme ça.
Non, mais nous sommes très conscients de ça parce que nous sommes en train de travailler aussi sur un plan de compensation carbone, hein, que je pourrais pas vous dévoiler aujourd'hui, mais nous sommes très conscients et nous.
Dans l'immédiat, là, pour ceux qui arrivent ce week-end pour skier chez vous pour les vacances, ça va, qu'est-ce que vous faites?
Non, mais de toute façon, nous allons laisser cette piste qui est sécurisée, qui est ouverte.
Vous laissez comme ça?
Mais particulièrement pour les enfants. Parce que nous avons considéré que les enfants, pendant ces vacances scolaires, ne pouvaient pas rester à la maison devant des jeux vidéo.
Mais dites-moi, il y aura encore des embouteillages?
Mais on parle d'embouteillage, mais c'est exagéré. Il n'y aura pas d'embouteillage. Nous essayons de tout faire. De toute façon, nous sommes conscients et nous essayons de mettre en place des choses parce qu'il faut bien animer un tout petit peu nos stations malgré le fait qu'on n'ait pas de remontée mécanique.
Okay.
Et donc, vous savez...
Donc, vous la maintiendrez ouverte, j'entends bien, en tout cas. Merci d'être intervenu sur notre antenne, Jean-Yves Pachaud, maire de Courchevel. Merci beaucoup. Malgré le Covid, les Français sont restés joueurs. Les mises ont reculé de près de 7% à la Française des Jeux, car beaucoup de points de vente avaient dû fermer pendant les deux confinements. Mais les jeux en ligne ont bondi de 40%, même si le plaisir est un peu virtuel, Christophe Ponzio.
Oui, Loïc, 23 ans, joue au loto et autres paris sportifs depuis sa majorité, 100 euros par mois... Et il le reconnaît.
Au début, j'allais chez le bureau de tabac, justement, mais avec toutes les plateformes, etc. Du coup, je vais plus sur les applications Internet.
Terminer le grattage à la main ou le stylo pour cocher ses numéros, ce joueur y voit bien des avantages.
Pas se mentir, on va dire qu'on se déplace pas, on reste à la maison, on est au chaud. Du coup, c'est plus facile, c'est plus simple après sur le téléphone. Qu'on puisse pas aller au bureau de tabac, en ce moment, avec l'épidémie, ça aussi, ça joue beaucoup. Je préfère rester chez moi, éviter les contacts.
Moins de contacts que chez son buraliste parisien Steve, dont la partie café est fermée, moins de monde donc. Il s'inquiète de cette envolée des mises virtuelles.
Énormément. Les gens ne peuvent plus rester à l'intérieur, alors du coup ils ne peuvent pas faire leur jeu correctement, forcément on sent qu'il y a une grosse perte, ils vont sur internet.
Pour autant, pour la PDG de la FDJ, Stéphane Palaise,
ça n'est absolument pas la fin du jeu en point de vente. 90% de nos mises se font dans nos points de vente parce que le jeu en point de vente fait partie des habitudes des Français, du commerce de proximité, de moments de convivialité, de sociabilité. Donc le jeu en point de vente a un bel avenir.
Et pour Loïc, le résultat des mises en ligne reste le même.
On perd plus qu'on gagne, mais ça va, on gagne de temps en temps quand même.
Oui, mais 100% des gagnants ont tenté leur chance, vous savez bien.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et un coup de cœur à l'approche de la Saint-Valentin s'impose. Nous partons à Lyon, où un restaurateur végétarien considéré comme le meilleur au monde, Culina Hortus, offre une centaine de menus de fête aux étudiants lyonnais. Frédéric Perruche.
Ah oui, clairement, ce que propose le jeune chef Adrien Zeda est un pur bonheur culinaire. Un menu gastronomique avec mousseline de carottes aux agrumes en entrée, suivi d'un plat de résistance pour le moins alléchant.
On a fait une tourte végétale dans l'esprit un peu d'un bœuf Wellington. Donc à l'intérieur, on trouve une duxelle de champignons, des topinambours, des épinards. Accompagné avec un écrasé de pommes de terre à la truffe fraîche de la Drôme et avec un jus corsé végétal à la truffe. Et puis sur le dessert, un crémeux chocolat qui est accompagné de chouchou cacahuète, caramel cacahuète et un biscuit strudel. Cacao avec un peu de fleur de sel.
Adrien et Thomas Boiniche, le patron du restaurant Culina Hortus, ont été touchés par la détresse étudiante et espèrent avec ce menu de fête offrir à 100 d'entre eux un peu de bonheur, tout simplement.
C'est vrai qu'on a eu des mots assez sympathiques, beaucoup qui nous disent merci de penser à nous, c'est gentil, un peu de bonheur, ça nous fait chaud au cœur.
Dans les messages, ils ont aussi dit que ça les sortait un petit peu de leur routine et puis de, entre guillemets, leur isolement, parce qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent seuls malheureusement parce qu'ils peuvent pas aller à la fac. Et c'est vrai que ce repas, je pense, ça va amener une petite gaieté, la joie donc, dans leur quotidien. Et ça, c'est important pour nous.
Débordé par les demandes, plus d'un millier. Adrien et Thomas devraient relancer l'opération à la fin du mois.
Et c'est une bonne nouvelle. Merci Frédéric Perruche. Les tennismen français se souviendront longtemps de l'Open d'Australie. D'abord parce qu'ils ont disparu assez vite du tournoi, comme Adrian Manarino, sorti en 3-7 sec par l'Allemand Zverev. Ensuite, parce qu'après 3 semaines de retard dues aux quarantaines, les voilà désormais confinés pour 5 jours, comme tous les habitants de l'État de Victoria, dont Melbourne est la capitale. Adrian Manarino est complètement désabusé.
Moi, j'ai appris ça à peu près une heure avant mon match. On prend tous un petit coup derrière la tête parce que je pense que personne n'était au courant du mode de fonctionnement, en fait. Voilà, apparemment, chez eux, c'est assez récurrent de, quand il y a un cas, de fermer l'État pendant 1, 3, 5 jours. Tous les joueurs seraient quand même venus, mais c'est vrai que quand tu es au courant de toutes les conditions, c'est un peu plus facile à accepter. Là, c'est un peu dur, mais bon. Il y a des jours comme ça où tout va bien et des jours où tout va mal. Il faut juste souffler un coup, respirer et puis être patient. En fait, le cas positif, il n'a rien à voir avec le tournoi de tennis. Du coup, si on commence à retester tous les joueurs, pourquoi pas retester tous les Australiens aussi?
5 jours de bus sanitaire pour Adrian Manarino et pour tous les joueurs de l'Open d'Australie. Pascal Praud, incroyable cet Open cette année.
Oui.
Il est maudit.
On peut interroger d'ailleurs les auditeurs, mais c'est vrai qu'a priori, on le suit assez peu finalement avec le décalage horaire. Il y a les sujets classiques aujourd'hui, reconfinement, etc. Mais il y a 2 sujets qui m'intéressent particulièrement. C'est pourquoi les jeunes ne regardent-ils plus les émissions politiques traditionnelles? Hier soir, il y avait Darmanin, Le Pen, sans doute une des meilleures affiches, entre guillemets, politiques. Et les 25-49 ont quasiment pas regardé. Au contraire, ils ont regardé Cyril Hanouna qui recevait Jean-Luc Mélenchon. Donc pourquoi va-t-on voir Jean-Luc Mélenchon chez Cyril Hanouna et pas dans une émission classique? Voilà un thème qui est quand même intéressant et qui nous interroge, nous, journalistes. On pourra parler également de la Saint-Valentin. Ça m'intéresse parce que c'est un peu plus léger quand même. Comment vous la préparez? Qu'est-ce que vous allez faire comme cadeau? Comment vous allez la passer? Etc, etc.
La météo, Valérie Quintin, les températures font le grand écart.
Oui, à l'heure qu'il est, on part de moins 8 degrés à Mulhouse pour atteindre 16 degrés à Ajaccio. La douceur, elle persiste quand même dans le sud du pays. C'est au nord qu'il fait le plus bon froid et qu'il fera le plus beau également, malgré tout. On a moins 1 degré à Lille et à Metz cet après-midi, 0 à Dijon, 1 degré à Paris, 3 à Cherbourg, 12 à Toulouse, 14 à Toulon. Et donc, ces pluies, ces chutes de neige et ces pluies verglaçantes qui se concentrent surtout sur la moitié sud du pays. On a des pluies verglaçantes encore actuellement sur le centre-Val de Loire ou encore vers le nord du Limousin, le nord de l'Auvergne. De la neige un petit peu plus bas, on attend 7 à 15 cm de neige jusqu'en plaine dans le massif central et en région Rhône-Alpes cet après-midi. Et puis des pluies, de bonnes grosses pluies encore une fois dans le sud-ouest.
Et pas de dégel en vue ce week-end?
Non, on va avoir un week-end encore très très froid. Alors toujours pour les mêmes, parce que dans le sud, franchement, ça les effleure même pas, cette petite fraîcheur en ce moment. Ils ont vraiment des températures très très douces. Dans la moitié nord du pays, on va avoir très froid samedi comme dimanche, avec pas de gros mauvais temps. Demain, quelques pluies verglaçantes encore à craindre sur la Bretagne et sur les pays de Loire. On aura un petit peu d'instabilité également avec de la pluie et de la neige des Alpes-Maritimes jusqu'à la Corse. Sinon, de la grisaille pour la moitié ouest et plutôt du soleil à l'est. Dimanche, un temps plutôt bien ensoleillé avec de l'instabilité essentiellement près de la Méditerranée où la limite pluie neige se situera aux alentours de 300 mètres. C'est pas très très haut, mais les températures vont rester encore très très élargies puisqu'on aura dimanche après-midi 18 degrés à Biarritz alors qu'on sera toujours dans le négatif ou pas loin sur les autres régions. Et déjà la nuit prochaine, dans la nuit d'aujourd'hui à demain, on aura encore un bon moins 12 à Mulhouse, moins 7 à Abbeville, moins 5 à Paris et Lyon. Le redout, c'est pour la semaine prochaine et pour tout le monde cette fois.
Bah voilà, quand vous voulez. Merci Valérie. À suivre le rappel des titres et c'est à vous au 3210.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
À la seconde près, il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal, faut-il reconfiner un département? Et Philippe habite en Moselle. Bonjour, vous êtes directeur d'une usine en Moselle, donc vous êtes directement touché.
Oui, bonjour Pascal. Non, je suis directeur d'une usine au Luxembourg, mais j'habite à Metz.
D'accord. Donc la question reste valable. Est-ce qu'il faut reconfiner en Moselle?
Pour moi, non.
Vous nous direz pourquoi. Christelle le rappelle des titres.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, justement attendu en Moselle tout à l'heure, où la situation est inquiétante. Plus de 300 cas de variants sud-africains et brésiliens ont été répertoriés ces derniers jours, sans qu'il y ait de cluster. Il faudra prendre des mesures particulières de restriction. La région allemande de la Sarre n'exclut pas le rétablissement des contrôles aux frontières avec la France et le Luxembourg, justement face à la diffusion de ces variants. Encore une cyberattaque. Cette fois, elle vise la Mutuelle nationale des hospitaliers, qui compte plus d'un million d'adhérents. Les remboursements seront donc retardés. Le site internet est par ailleurs inutilisable. Le confinement a profité aux petits électroménagers. En tête, les machines à café avec broyeur, plus 55%. Les robots ont bondi de 27%. Les friteuses de 18%. C'est le bilan annuel dressé par le groupement des marques d'appareils pour la maison. On a clairement passé du temps en cuisine. 2 changements dans le 15 de France qui joue dimanche à Dublin. L'ailier Damien Penaud et le 3e ligne, Anthony Jelonche.
Les auditeurs ont la parole.